Eh bien, bonjour au dernier carré, à ceux qui n'en ont pas encore assez et qui acharnés viennent pour cette ultime rencontre et qu'on ne mènera pas sur 50 minutes, ce sera un petit peu plus court parce que c'est vraiment la dernière. Comment on appelle ça déjà ? Un dernier pour la route ? Non, mais des fois, on se demande qui est-ce qui trouve des sujets de conférence aussi stupides. Non, plus sérieusement, c'est un petit moment, en fait, un peu informel. Où on accueille quelques derniers auteurs, ceux qui repartent un peu plus tard ou le lendemain matin, ou qui habitent dans la région, pour le Lionel Béra. Et c'est une façon de terminer en douceur. C'est peut-être finalement une façon de me protéger de la dépression post-festival, parce que déjà, ça me manque jusqu'à l'année prochaine. J'ai l'impression que c'est valable aussi pour pas mal d'auteurs, pas mal de lecteurs. Les Imaginales qui s'achèvent là, avec cette dernière petite rencontre, c'est quand même un grand moment. C'est un grand moment, je pense, pour les auteurs. C'est un grand moment, je peux vous le dire, pour les organisateurs. Et c'est, j'ai l'impression, d'après ce qu'ils nous disent, un grand moment pour les lecteurs et festivaliers qu'on croise de plus en plus de toutes les régions de France. Encore tout à l'heure, ce matin à l'hôtel, je tombe sur deux festivaliers qui faisaient des bagages, mais qui disaient, on va faire des conférences. On vous a vu, vous allez être organisatrice. Alors ce festival, ça vient d'où ? Et on vient de Lyon et on revient l'année prochaine. Ça, c'est vraiment, voilà, des gens, j'ai vu des auteurs dans un petit festival en province, et hop, voilà. C'est des rencontres comme ça, on n'y croit pas, et on se dit, finalement, c'est peut-être ça aussi, le bonheur de la littérature, c'est d'avoir, sinon un pays, du moins, des moments apaisés entre nous. C'est des moments où il fait bon vivre, où les gens qui viennent aux Imaginales sont souriants, oublient un temps les difficultés de la vie quotidienne, oublient les climats à tel ou tel moment qui peuvent être tendus, voire détestables, et pensent que finalement, il y a des moments où l'échange, la convivialité, la capacité à s'écouter, l'envie de se parler, l'envie de partager des moments, on est tous différents, et sans doute très différents, et ça, on le ressent, les gens ont le sourire, et parfois on se dit que dans notre beau pays pourtant, ça manque un peu le sourire, d'avoir le sourire nous-mêmes parce qu'on est heureux, c'est quand même mieux, et d'avoir le sourire vers les autres. Et on se dit que finalement, si c'est possible 4 jours, certes autour du livre, avec une envie, avec un climat, ça devrait être possible un peu plus, peut-être pas 365 jours par an, mais un peu plus. Voilà, petite introduction pour dire qu'on aimerait qu'on voit un peu ce climat partout et toujours. Et en tout cas, c'est ce que vous retrouverez l'année prochaine aux Imaginales, des auteurs nombreux, divers, venus de toute la France, mais aussi de nos amis, comme Cindy, de Belgique, de Suisse et du monde entier, puisque cette année, on avait non seulement une auteure américaine, on aura d'autres l'année prochaine. Je peux déjà vous dire qu'on aura Robin Hobb, puisqu'elle l'a annoncé sur Facebook, donc c'est déjà acquis. Ça sera notre première invitée américaine de l'année prochaine, une amie, une habituée. Et puis, on aura plein d'autres auteurs, comme cette année, on avait donc Aguilera, ce passionnant auteur espagnol, affichiste, écrivain, nos amis latino-américains, Yosh, qui est maintenant un habitué, qui va être traduit et publié aux États-Unis. Superbe retour pour un auteur cubain, finalement. C'est lui qui débarque aux États-Unis. C'est amusant. Et puis, notre ami Leandro Avalos-Blacha, qui on a découvert, qui est passionnant. Ses romans sont chouettes et c'est un garçon charmant, ce qui ne gâche rien. J'allais oublier, bien sûr, Christopher Priest, qui est la crème des hommes et l'un des plus beaux écrivains de science-fiction britanniques. Évidemment, Abercrombie, qui était aussi un invité tout à fait précieux, un auteur de fantasy caustique, drôle et plein d'action. Voilà, on pourrait continuer à prendre la liste, puisque vous êtes avec nous pour ce petit final informel. D'abord, la parole quand même à notre auteur primé, à notre invité étrangère, mais enfin bon, quand on est belge francophone, est-ce qu'on est vraiment étrangère en France ?
Non, pas vraiment, non.
Cindy Van Wilder, vous venez de publier donc Les Outrepasseurs. C'est le premier roman d'une trilogie pour la jeunesse. Et vous décrochez d'emblée comme ça le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy pour la jeunesse. Les autres auteurs, ils vous détestent tous déjà.
Oui, bien sûr. Je ne vous dis pas combien de menaces de mort j'ai reçues. J'ai reçu à ma table, effectivement. Non, sérieusement, ce climat des Imaginales que vous vantez si bien en début de conférence, moi, je l'avais déjà vécu en tant que visiteuse, puisque je suis une assidue de festival depuis au moins 5 ou 6 ans. Maintenant que je le vis de l'autre côté de la table, j'allais dire de l'autre côté du miroir, mais bon, de la table, ça marche tout aussi bien. Je trouve que ça se ressent encore plus, en effet. Tout à fait.
Lionel Béra, c'est votre première participation comme invité, pas comme lecteur, mais comme invité aux Imaginales, pour un premier roman. Le second vient de sortir. Donc votre premier roman, Les Arcanes du Temps, un roman là aussi de science-fiction. Vous habitez pas très loin, ce n'est pas un secret de dire que vous êtes en Lorraine, vous habitez à Nancy. Comment vous aussi vous avez ressenti la rencontre avec le public? Je précise que votre roman fait partie des romans proposés à la sélection du prix Imaginales des Lycéens, ce qui est pour un premier roman déjà une jolie sélection, puisque c'est quand même, avec ma participation modeste, les enseignants du comité de lecture qui le choisissent. Alors, les Imaginales.
Ah bah c'est un grand moment. Hein, on rencontre pas mal de gens et c'est vrai que j'ai des racines, donc je suis de Nancy, mais j'ai des racines vosgiennes et ça m'a permis aussi personnellement de rencontrer plein de gens que j'ai pas vu depuis 20 ans ou plus qui me reconnaissent, qui sont étonnés de me voir là et ça, bon, d'un point de vue on va dire personnel, c'est agréable, voilà, de retrouver des gens comme ça. Et puis ben, c'est quand même une certaine fierté effectivement d'être de l'autre côté. Donc je connaissais les Imaginales en tant que lecteur, je les ai pratiqués aussi lors du speed dating, lorsque je cherchais un éditeur pour ce roman. Donc j'ai participé au speed dating, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on rencontre des éditeurs pendant, je ne sais plus, un quart d'heure, 20 minutes, et on essaye de les convaincre de l'intérêt de notre roman, et ça nous permet de rencontrer comme ça, je ne sais plus, une demi-douzaine peut-être d'éditeurs, 5 ou 6. Et puis donc l'année dernière j'avais été sur le salon de mon éditeur, donc Rebelle Édition, et puis cette année donc en tant qu'invité. Et c'est des étapes à chaque fois, donc lecteur, speed dating, le stand de Rebelle Édition, puis en tant qu'invité. Et quand on se retrouve en tant qu'invité avec à côté, on va dire des stars, hein, faut dire ce qu'il y a, bah, c'est une certaine fierté, une certaine satisfaction d'être arrivé là.
Alors, on excusera Bernard Simonet qui était fatigué, qui donc est rentré à son hôtel. Par contre, on n'excusera absolument pas Yerdal. D'ailleurs, on va abattre son bouquin symboliquement. On va enlever son étiquette. Voilà, je vais mettre mon nom au-dessus du sien. Les choses seront claires. Et Yerdal, évidemment, est au bar en train de faire le gourou auprès de jeunes admirateurs. Il en a oublié l'heure. Voilà, les Imaginales, c'est aussi cette magie-là. Les auteurs sont tellement bien avec leurs lecteurs qu'ils en oublient leurs horaires. Ceci dit, nous réglerons cela en famille. Cindy Van Wilder, en deux mots, présentez-nous un peu, pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, votre histoire, Les Outrepasseurs.
En deux mots, sûr ?
Quelques-uns de plus, allez.
Allez. D'abord, pour Les Outrepasseurs, donc, je pense que ce premier tome mélange fantasy, fantastique, ainsi qu'une bonne dose d'historique, puisque l'action se passe sur deux intrigues, chacune située dans une époque et un lieu différent. Donc d'abord, pour notre époque actuelle, à Londres, où un jeune garçon, Peter, est victime d'une agression à laquelle il réchappe de justesse grâce à l'intervention de sa mère. Et c'est à cette occasion qu'il découvre en fait qu'il fait partie d'un monde dont il ignore tout et bien sûr dont il va chercher à savoir davantage dessus. Pour le côté historique, donc, l'autre intrigue se situe dans la France du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, où un groupe de villageois essaye tant bien que mal de vivre au quotidien. Et soudain, ils se retrouvent confrontés à une menace inconnue sous la forme de fées, non pas les petites gentilles fées qu'on a l'habitude de voir dans les dessins animés de Disney, mais des créatures qui sont beaucoup plus inspirées des contes et légendes d'antan. Et ce qui m'a intéressé surtout de voir, c'est la réaction de ces villageois par rapport à cette menace dont ils ignorent tout. Comme je le disais aussi à certains lecteurs, par rapport à une menace dont vous ignorez tout et qui, bien sûr, vous met en péril directement, soit vous vous soumettez, quelque part vous subissez, soit vous essayez de résister et de comprendre. C'est ce que vont faire mes villageois et bien sûr, de là, il va découler toute une conséquence d'action. Bien sûr, les deux intrigues sont étroitement liées. Et c'est donc le premier tome d'une trilogie qui, par la suite, va se dérouler dans notre monde, principalement à Londres, mais dans d'autres lieux que je ne dévoilerai point ici.
Et vous, Lionel Béra, Les Arcanes du Temps, quelques mots, pareil, quelques phrases, mais vous avez quelques minutes, tranquille. Présentez-nous.
Je vais profiter
roman.
De l'absence de certains pour prendre un peu plus de temps sur mon temps de parole.
C'est les dernières ventes, il faut en profiter.
Alors, les deux points communs avec ma voisine, c'est que c'est aussi, on va dire, transgenre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois donc, de la science-fiction, puisqu'il y a des voyages dans le temps, des aventures historiques, et un côté thriller, donc voilà. Et l'autre point commun, c'est que ça se passe aussi à deux époques, c'est-à-dire la nôtre et au Moyen-Âge. Alors, ce sont des jeunes gens qui un peu par hasard, constatent qu'un riche Anglais est en train d'embaucher des tueurs à gages, qu'il envoie dans le passé pour éliminer Jeanne d'Arc. On croit, pendant une bonne partie du roman, que c'est simplement parce que c'est un mégalomane qui veut changer l'histoire pour que l'Angleterre devienne le leadership au niveau européen, voire mondial. En fin de compte, il a des motivations bien plus complexes, mais ça, on les apprendra plus tard. Et donc, un de ces jeunes gens, de ces adolescents, qui surprend ce complot, va être lui-même surpris, et les Anglais, les tueurs à gages vont vouloir l'éliminer. Et la seule manière qu'il va avoir pour s'enfuir, c'est de passer un de ces fameux bracelets qui permettent de voyager dans le temps, et il va se retrouver au Moyen-Âge. Bien sûr, il a enfilé un mauvais bracelet, c'est une première version, une version qui ne permet pas de retourner vers le futur, donc il va être coincé au Moyen-Âge. Et comme il a tout perdu, sa famille, ses amis, comme il est seul, malade, quasiment mourant, il va être aidé et soigné. Il va donner un sens à sa vie en disant « je vais prévenir Jeanne d'Arc que des tueurs à gages sont envoyés pour l'éliminer ». Donc il va la retrouver et il va se rendre compte que non seulement donc elle est en danger, mais surtout qu'il y a d'autres personnes venues de notre époque qui, eux, veulent que notre histoire s'écrive comme on la connaît. Et qui pense que Jeanne d'Arc n'a pas pu, en tant que gamine de 16 ans, réaliser tout ce qu'on dit et qu'elle a forcément bénéficié d'une aide extérieure et que l'aide extérieure, elle vient justement d'eux-mêmes, c'est-à-dire de gens du futur. Donc c'est un roman, en gros, qui explique les mystères de Jeanne d'Arc, donc les voix qu'elle entend, pourquoi elle a pu reconnaître le dauphin sans jamais l'avoir vu, comment elle a fait pour le convaincre, etc., de lui fournir une armée, par l'intervention de gens du futur. Voilà. Donc ça, une fois qu'on admet le voyage dans le temps, l'idée c'est de rester le plus collé à la réalité historique. Donc c'est aussi un roman historique.
Justement, c'est amusant dans deux romans très différents, l'un de fantasy, l'autre de science-fiction, cet intérêt pour l'histoire. D'où ça vous vient? Parce que j'ai remarqué que c'est quand même, c'est pareil dans le Bâtard de Cossigan, un des romans sélectionnés pour le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy. C'est valable dans plein d'autres récits. On trouve un intérêt actuellement chez les auteurs de science-fiction de fantasy pour l'histoire. Comment vous expliquez ça, Cindy?
Je pense en fait que quelque part, enfin, je vais parler d'abord pour ma part, puisque je m'inspirais des contes et légendes d'antan, notamment en ce qui concerne la féerie, quelque part j'ai voulu un petit peu mettre en valeur tout ce décor de forêts sombres, de villages perdus, de gens qui s'aventurent dans les bois, etc. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les contes, tout au moins des contes occidentaux. Le danger qu'il peut y avoir à pénétrer seul et quelque part les découvertes que l'on peut faire sur les autres et sur soi-même à ce moment. J'ai voulu les remettre donc dans un contexte historique qui était tout à fait valable pour cette époque et qui donc était pour moi la France au Moyen-Âge. Bien sûr, j'avais d'autres motifs et qu'on ne dévoilera point plus ici pour ne pas trop teaser ce premier roman. Maintenant, d'un sens général, je pense aussi que, par exemple, l'émergence de séries télévisées telles que, bien sûr, Le Trône de Fer, qui respectent une certaine réalité historique de notre monde, alors qu'elle se situe dans un monde tout à fait imaginaire, n'est pas vraiment innocent dans ce mouvement de, on ne va pas dire de regain, mais tout au moins d'intérêt pour la période historique, à mon sens, oui.
Lionel Bérard, qu'est-ce qui fait qu'un auteur de science-fiction se passionne, bon d'accord, on est Lorrain, mais pour l'histoire de Jeanne d'Arc? Oui. Arracher le mythe aussi à certains?
Oui, aussi, on me l'a dit. Voire reprocher. L'idée de base, c'était d'écrire une histoire de voyage dans le temps. Avant d'écrire quelque chose d'historique, je voulais faire du voyage dans le temps parce que c'est un thème qui permet énormément de rebondissements, de coups de théâtre. Ça permet de jouer avec le lecteur, de le mettre sur des fausses pistes. Donc c'était ça l'idée de départ avant de dire « je veux parler d'histoire ». Ensuite, une fois que j'avais donc décrété de faire une histoire de voyage dans le temps, j'ai voulu, comme je disais, rester collé à une réalité historique. Et pourtant, je voulais un personnage ou un thème qui comportait énormément de mystères, sans qu'il soit trop ancien. Donc j'ai estimé que c'était Jeanne d'Arc qui était le personnage le plus récent quelque part et qui était le plus méconnu, enfin le plus incompris. On comprend pas vraiment toujours pas pourquoi, comment elle a pu réussir à mener tout ce qu'elle a réalisé. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté à Jeanne d'Arc et à cette époque et à la guerre de 100 ans. Parce que c'est quasiment un personnage mythologique, alors que bon, il a existé, on a quand même des traces, on a ses jugements, voilà. Alors que bon, s'il y avait eu un personnage encore plus récent, je pense que je l'aurais choisi. Et si on n'avait pas eu Jeanne d'Arc, je pense que j'aurais choisi un personnage encore plus ancien. Peut-être au niveau, effectivement, à l'époque des Romains, ou par exemple, voilà.
C'est quand même un personnage, Jeanne d'Arc, c'est quand même un personnage étonnant quand on y réfléchit bien. Y compris, des fois, on peut être, j'en rentrerai dans des choses, surtout un jour d'élection, mais dans des choses surprenantes de voir des gens qui se réclament de Jeanne d'Arc quand on réfléchit bien. Le Moyen-Âge, c'est quand même une période qui est extrêmement codifiée dans les rapports entre les sexes. Or, Jeanne d'Arc, elle est quand même transgenre, quoi. Jeanne d'Arc, elle se met en garçon, elle a les cheveux courts, elle ne s'habille jamais en fille. Enfin, c'est un personnage qui, normalement, sent le fagot. Et c'est peut-être ça qui vous a intéressé, Lionel Béra ?
C'est tous ces aspects, c'est-à-dire pas seulement ça, mais aussi son âge, sa condition sociale. Bon, je rétablis un peu la vérité, elle n'a jamais été bergère, elle était quand même fils de ce qui équivaut aujourd'hui à un maire, mais de village, mais quand même, donc voilà, vraiment pas, c'était pas non plus des riches, hein. Donc c'est tout ça, c'était le fait qu'effectivement elle ne savait pas lire, hein, par exemple, elle ne savait pas monter à cheval non plus, apparemment. Donc c'était tout cet ensemble-là, voilà. Un personnage qui n'avait, comme ça, sur le papier, aucune chance de réaliser tout ce qu'elle a réalisé. Ça aurait été un personnage de fiction, on aurait écrit un roman sur elle, personne n'y aurait cru. On m'aurait dit, mais cette histoire-là, elle ne tient pas la route, elle n'est absolument pas crédible. Voilà. Donc c'est pour ça, vraiment, c'est pour tout l'ensemble.
Petite question annexe, votre métier, sinon, à part écrivain, c'est quoi ?
Alors, je suis prof de droit.
Pas d'histoire ?
Pas d'histoire, du tout. Mais donc, il m'a fallu que je fasse des recherches historiques.
Et oui, justement.
Le seul petit point commun, c'est que mes titres de chapitres sont en latin, puisque ce sont des locutions latines. Et en droit, il y a beaucoup de locutions latines qui sont utilisées. D'ailleurs, c'est peut-être le seul point commun. Sinon, c'est justement. Donc, le thème, c'est quand même pourquoi aussi on a écrit, hein, le thème de cette dernière réunion. C'est vrai qu'en droit, on est assez cartésien, assez enfermé dans des règles. On ne peut pas trop s'en échapper. Et le fait d'écrire des romans, ça permet de faire travailler l'imagination qui, effectivement, ne doit pas être utilisée en droit. En droit, faut pas faire preuve d'imagination. Alors là, ça permet de compenser un de mes aspects voilà, que je ne peux pas exercer en droit, que je ne peux pas utiliser en droit.
Justement, ben, pourquoi vous êtes lancé, même si vous venez de nous expliquer quelques petites choses, dans un roman à la fois avec des éléments historiques et un roman de science-fiction? On aurait pu attendre un roman de littérature générale, un roman de mainstream, comme on dit, un roman racontant les émois du jeune Werther, enfin bon, de la littérature générale en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous qui êtes, comme vous venez de le rappeler, un honorable professeur de droit, dans cette littérature quand même qui plaise de plus en plus, mais originale, différente, qu'est-ce qui vous a poussé?
Pour moi, la littérature, ça doit être avant tout un plaisir, de la distraction, voilà. Donc, j'ai pas envie d'écrire quelque chose de très sérieux. Je voulais écrire quelque chose, enfin, c'est sérieux. Je voulais écrire quelque chose qui divertit, voilà. Moi, quand je lis, quand je regarde la télé, c'est avant tout pour me divertir. Le travail, c'est à côté, justement. Donc, généralement, je regarde pas par ma télé des émissions trop intello. C'est rare. Au contraire, voilà. J'ai ce côté intello dans mon boulot. Le reste, c'est pour divertir. Donc, l'idée d'écrire sur le voyage dans le temps, par exemple, c'est parce que je suis fan de la saison de la série Lost, et dans la saison 5, le thème c'est le voyage dans le temps, et j'ai adoré cette saison 5 qui est bien complexe comme j'aime, avec des rebondissements. Et donc voilà, je trouve ça hyper divertissant, et c'est pour ça que j'ai voulu partir sur ce thème.
Je vous félicite, Yardal, d'être à l'Orangina. Reprenons. à part pour vous faire payer des coups, Yardal, pourquoi écrivez-vous? Enchaînons.
Pourquoi ? Vraiment, pourquoi ?
Oui.
Ok. De temps en temps, dans mon égocentrisme absolu, il me semble avoir des choses à dire à vous. Voilà. Donc je le fais. C'est tout. Par moment, comme en plus je vous connais un petit peu, les uns et les autres, je suis obligé de vous prendre légèrement par derrière. C'est très agréable, hein, personnel. Je ne sais pas si tout le monde en profite joyeusement. Mais oui, j'ai des choses à vous dire. Et puis, parfois, elles ne sont pas faciles à dire. Donc, il faut que je le fasse autrement. C'est tout.
Reprenez un peu d'angina, Yerdal. C'est comme moi, j'ai un peu mal à la gorge. Et en ce moment, après tous les efforts et tous les débats auxquels on a participé, ça me paraît tout à fait recommandé. Sylvie Van Wilder, quand vous avez choisi, je suppose que c'est quand même pas venu par hasard, si c'est venu par hasard, vous me le direz aussi, vous le direz surtout à notre public, pourquoi la littérature jeunesse ?
La littérature jeunesse, mais en fait, au départ, ce n'était pas un choix. Disons que je n'y ai pas sciemment pensé. J'ai juste pensé que voilà, c'était l'histoire que je voulais écrire.
Et ne dissipe pas ses petits camarades, Yerdal. Ouais.
C'est l'histoire que je voulais écrire et en fait, il s'est avéré que moi, je préférais avoir un adolescent comme personnage principal parce que je pense que c'est un âge de la vie qui m'inspire particulièrement pour mes personnages. Et il s'est avéré, bien entendu, avec beaucoup de chance et de hasard, qu'un éditeur jeunesse, donc Gulfstream, s'y est intéressé. D'où la classification récit jeunesse, mais je pense que c'est un récit qui peut parler à tout le monde.
Lionel Bérin, une question sur votre rapport à l'édition, puis c'est votre premier roman, comme Cindy. Vous avez rencontré votre éditeur après le speed dating. Comment vous l'avez rencontré ? Ça peut intéresser ceux qui ont envie d'écrire dans la salle.
De manière de plus simple possible, par envoi de manuscrits. Voilà, on en envoie 5, 10, 15, 20. Et on attend impatiemment les réponses positives si elles viennent. Alors on reçoit beaucoup de réponses négatives, souvent d'ailleurs formatées. Et j'ai eu la chance d'avoir deux réponses positives et donc j'ai choisi Rebelle Édition. J'ai bien fait, l'autre maison d'ailleurs depuis a mis la clé sous la porte, a dû déposer le bilan.
Être auteur, c'est aussi avoir le nez creux.
Oui, bon. La politique de l'autre maison d'édition me semblait un peu risquée. Donc c'était pas un hasard effectivement.
À Yerdal, c'est pas tout à fait le même profil. Vous avez à vos côtés deux auteurs de premier roman, même s'il y a un déjà primé. Vous avez derrière vous déjà une carrière impressionnante pour ceux qui ne connaissent pas encore votre œuvre. Vous avez plusieurs prix littéraires importants. Vous avez une douzaine, je pense, de romans de science-fiction. Et puis, vous êtes passé au thriller, même s'il y a toujours un petit élément de science-fiction d'anticipation. Vous parlez toujours de questions de société. Vous n'hésitez pas à provoquer, à titiller. Pourquoi vous êtes devenu écrivain, et là, très sérieusement, Yerdal ?
Stéphanie, c'est un joli cadeau que tu me fais. Pourquoi je suis devenu écrivain ? Parce que je ne savais pas parler. Je savais écrire, mais pas parler. Donc, j'avais une... Je pense, fondamentalement, moi, cette envie d'être acteur dans la société, dans la cité. Pour reprendre le terme grec, helléniste du terme. Et donc, comme je ne savais pas parler, il fallait que j'écrive.
Ça, c'est une réponse.
Je l'ai fait. Après, je me suis aperçu que, devenant un technicien d'écriture, parce que ça arrive aussi au départ, on est innocent, et puis petit à petit, on apprend un certain nombre de choses, grâce aux éditeurs qui nous apprennent à travailler, entre autres. Devenant technicien de l'écriture, je me suis aperçu que je pouvais dire les choses avec plein de modes différents. Parfois rigolo, parfois pas rigolo, parfois mélangeant les deux. Je l'ai fait. Je l'ai juste fait. Et je comprends toujours pas pourquoi vous continuez à me lire.
Peut-être parce que les livres sont bons.
Non, mais d'un bouquin sur l'autre, vous pouvez pas savoir ce qui va arriver, quoi. Dans le prochain, je vous jure, vous ne savez pas. Même moi. Il y a Sarah qui dit discrètement, ce n'est pas le prochain, c'est celui d'après. Oui, mais déjà, le prochain, il ne va pas être évident, mais celui d'après, pouh, voilà. Donc, j'ai enchaîné. J'ai eu cette chance extraordinaire de vivre un trou nucléaire qui s'appelle une dépression. Donc, quelques années pendant lesquelles je n'ai pas écrit. Beaucoup, j'ai énormément publié sous mon vrai nom, Marc Soulier. Il vous suffit de chercher tout ce qui a été publié entre 2004 et 2010 sous le nom de Marc Soulier. Éventuellement, vous me retrouverez. Mais par contre, je n'étais plus auteur, j'étais juste journaliste, quasiment, tu vois. Et retrouver avec résurgence, puisque c'est le moment où j'ai réécrit, cette faculté d'être un romancier, c'est-à-dire à la fois de dire les choses totalement vraies, mais de les faire avec un décalage supplémentaire qui vous permet, bah, si ça vous fait rire, c'est tant mieux, si ça vous fait pleurer, c'est tant mieux, si ça vous fait rêver, c'est tant mieux, je l'ai fait. Et je suis jamais sorti de ça depuis. Résurgence, c'est un gros foirage, pour être clair. Depuis, j'écris des bouquins, je m'amuse, je vous amuse manifestement, enfin en tout cas il y en a un, celui qui achète mes livres, donc j'ai les noms. Non, et c'est très rigolo d'être passé du stade, il y a eu un moment, Stéphanie, rappelle-toi, où j'étais l'auteur de SF qui avait réussi à publier des romans de polar. Waouh! Génial. 6 ans après, t'es plus rien. Tu es l'auteur de SF qui, bah, il ferait bien de prouver qu'en SF, il pourrait faire quelque chose. Sauf que je ne voulais plus en écrire. Donc j'ai écrit du thriller. Et ça redémarre petit à petit.
Ah, petit à petit, transparence, c'est quand même entre le grand format et le poche, 100 000 exemplaires. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien que ce soit petit à petit comme ça. C'est important quand même d'avoir beaucoup de lecteurs.
Financièrement, oui. Oh. On va être très clair. Non, le livre de poche, le transparence, c'est 120 000 exemplaires. Voilà. Je gagne pas grand-chose dessus. Pardon, je gagne beaucoup parce que je suis l'un des pires négociateurs qui soit. Mais ça aide un petit peu. Mais surtout, les gens peuvent éventuellement... Alors ça, c'était ce que je croyais. Je rêvais. Waouh, ils ont découvert en transparence, ils vont aller voir les autres bouquins.
Non.
Les lecteurs de thrillers et de vos romans contemporains ne lisent pas nécessairement toute la partie, c'est ça que vous dites, de votre œuvre de science-fiction. Il y a une séparation entre vos publics. Ce qui est peut-être dommage parce qu'on retrouve quand même de la Heyerdahl d'aujourd'hui dans les grandes œuvres de science-fiction. Et je pense que les lecteurs de science-fiction qui n'ont pas suivi auteur aussi, parce que dans transparence, il y a toujours un peu de cette magie de la littérature d'imaginaire, parce qu'on ne peut pas dire que mettre de la transparence dans un roman, même de thriller, ça soit tout à fait du réalisme. En tout cas, pas du réalisme traditionnel qu'on trouve dans certaines maisons d'édition parisiennes que nous ne nommerons pas. Voilà.
Quel auteur de littérature générale va un jour mettre en scène une armée de LGBT pour aller prendre le pouvoir dans un pays africain qui les exécute?
On est quand même dans la science-fiction, pas de doute.
Bah voilà. Et en fait, on n'est pas dans la science-fiction. On peut très, très, très bien le faire. Ils sont juste pas d'accord. Mais...
Heyerdahl recrute, là.
Mais oui, mais je fais ça. Mon dernier, c'est Bastards. Je raconte New York. Et je raconte New York à travers un certain nombre de choses qui sont des mythes new-yorkais et qui sont aussi les écrivains new-yorkais qui ont fait cette ville. Je n'ai pas choisi les écrivains totalement par hasard. Il fallait que je puisse leur demander la possibilité d'écrire. Donc, c'est des copains. Je l'ai fait, ça marche, et puis c'est rigolo. Mais c'est pas New York, elle n'existe pas, hein, celle-là de New York. Si. C'est juste que parfois, on oublie, quand on se balade quelque part, quand on voyage, on oublie de voir tout l'imaginaire qui a été déclenché. Parfois, c'est des auteurs, parfois, c'est des peintres, parfois, c'est des musiciens, mais il y a un imaginaire qui a été déclenché et qui va nous permettre de recevoir différemment un contexte particulier. Je dis un contexte parce que j'ai horreur des villes. Je vis en ville ? Ouais. Je vis dans une des villes les plus magnifiques du monde, qui s'appelle Bruxelles. Et très honnêtement, je trouve les gens super, je trouve tout ce qui se passe génial, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est cultiver mes tomates, quoi.
En tout cas, c'est des jolies tomates sur les rayons des maisons d'édition. Si vous ne connaissez pas encore, bon, ça arrive, Heyerdahl, moi, je vous propose de commencer peut-être par Transparence, voilà, qui pour moi est un livre tout à fait magnifique, mais on peut ensuite se plonger dans cette espèce opéra, et puis évidemment, Bastard, le dernier.
Méfiez-vous, des dernières éditions, elles sont complètement transparentes.
Bien, Cindy Van Wilder, vous, les lieux, c'est aussi les villes, mais vous, c'est Londres, on l'a dit tout à l'heure, et c'est également la campagne. Est-ce que c'était important de choisir non seulement dans votre roman un temps contemporain et un temps du Moyen-Âge, un temps des villes et un temps des campagnes, ou c'est juste par hasard ?
Bonne question. Alors, tant des villes, tant des campagnes, certes. En fait, comme je le disais auparavant, j'ai voulu mettre en scène aussi un milieu rural, un milieu qui ne devait que compter sur lui-même pour pouvoir survivre, surtout que ça se passe en plein cœur d'un hiver au XIIIe siècle, donc il y avait quand même moyen d'avoir des dégâts. Et effectivement, j'avais envie... à l'origine, je suis aussi une fille des campagnes, donc je ne suis pas du tout dans la ville. Et j'avais envie aussi de pouvoir représenter ce côté campagnard, ce côté un petit peu rural qu'on ne retrouve pas assez parfois dans des romans d'imaginaire, qui se passionnent bien sûr dans les grandes villes.
Lionel Béra, et vous, les lieux de votre imaginaire, c'est quoi ?
Dans le roman ?
Bah oui, entre autres.
Les lieux, moi, ça n'a pas une importance particulière. Les lieux, on va dire, sont au service de l'histoire. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui s'écrit, c'est quand les idées viennent, je mets le lieu qui est adapté. Mais je ne pars pas du lieu. Par exemple, dans le deuxième roman là, qui vient d'être sorti, L'Auréole des Codanés, ça se passe à Nancy. On m'a demandé pourquoi cette ville. Bon, simplement parce que j'y suis. Je veux dire, dans certains polars, la ville est un personnage en lui-même. Ce n'est pas du tout mon cas. Voilà, je n'utilise pas le lieu, on va dire, comme un personnage de roman. Je l'utilise vraiment au service de l'histoire. Alors que c'est un moyen, c'est juste un moyen, le lieu.
Intéressant parce que quand on prend Bastard, le dernier roman d'Aerdal, publié, là oui, New York est un personnage. De romans.
Oui, ça arrive souvent, oui. Mais c'est pas mon cas.
Eh bien, on a un moment sympathique, un moment de partage. On va donner la parole une dernière fois à Aerdal parce qu'il va bientôt falloir, non pas se séparer tout à fait, mais penser à s'acheminer tranquillement vers la bulle du livre parce qu'il serait intéressant de vous procurer Les Outrepasseurs, le prix imaginal du meilleur roman de fantasy de Cindy Van Wilder, Les Arcanes du Temps.
Oui, alors, ce sera le dernier, hein, parce que là-bas, il n'y en a plus chez mon éditeur, ni chez le libraire. Alors,
le dernier, si quelqu'un veut se décider, c'est tout de suite.
Sinon, on va le commander.
Eh bien, voilà, l'ultime à acheter. Donc, on ne fait pas trop l'article, ce n'est pas la peine. Et puis, évidemment, vous pouvez lire aussi bien Bastards, le dernier, que Rainbow Warriors, auquel faisait allusion Aerdal, et aussi Transparence, qu'il a, vous trouverez au livre de poche, Transparence, qui est un remarquable bouquin que moi, je considère, entre autres l'ouverture, les nageurs dans la ville, ces personnages qui savent se déplacer dans la foule et parfois frapper, que met en scène Aerdal dans un de ces instants de magie qui font parfois le grand écrivain. Et oui, les moments de magie, c'est aussi de fêter les imaginales. On va d'ailleurs se retrouver dans quelques minutes, parce que c'est aussi le petit cadeau qu'on fait aux derniers participants du Café littéraire, c'est de vous donner rendez-vous au fond de la bulle du livre, dans quelques minutes, où on va dire un dernier mot, on ne sera pas long, parce que franchement, on n'a plus de voix, on n'a plus envie, mais surtout, on va partager un verre, il y aura à boire, du blanc, mais il y aura aussi du jus d'orange. Tout va bien. Merci à vous, belles imaginales. On pense déjà à celle de l'an prochain. Merci.
Merci et reviendez nombreux parce que, s'il vous plaît, c'est juste l'un des plus grands festivals du monde.